Si je m'entends. Bonsoir, Kiora. Good evening. Vous êtes sur Amuse-Gueule, la radio des francophones et des francophiles, sur Auckland 104.6 FM, Planète FM. C'est en direct, live, comme on dit en français. Je rigole. Et c'est David à l'appareil. Salut, Max.
Salut.
Tu nous rejoins pour faire apprentissage numéro 3 techno, hein, c'est ça? Ou numéro techno, 2 techno? Ouais, ça,
technologie.
Technologie. Et à la techno, Anso.
Salut.
À la techno et puis à l'apprentissage, le coaching. Comment on dit coaching en français?
Coaching.
Coaching, d'accord. Bien, d'accord. Voilà, on dit coaching pour coaching. Non, à mon avis, il y a un mot français. Le coachage, un truc comme ça. T'as pas remarqué quand ils ont mis en français marketing, ils ont fait, qui vient du français marketing, ça vient de marché, market, marketing, mais on a fait marketage en français, hein, faut être très fort.
Marketage,
quand même.
Hein.
Ouais, c'est beau comme mot, hein, c'est très beau, hein, super sexy.
Ça sonne bien.
Mm. Bah, il faut qu'on invente des mots francisés qui étaient anglais, qui viennent du français. Oui, pardon. Je sais pas où je suis un peu trop loin du micro, trop
non,
proche.
Non, trop près. Proche,
ouais. Je gueule. Ce soir, on dit bonjour à Else. Coucou Else. Qui
salut,
devait
Else.
Être parmi nous, mais qui est malade dans son lit. Puis on lui passera une petite chanson qu'elle nous a demandé. Bah oui, parce que, en fait, si vous voulez, vous nous appelez au 815-8100 et puis on vous passe des musiques, hein, si vous voulez. Ce serait pas mal comme idée. Si vous avez envie, hein, appelez-nous 815-8100 et on vous passe la musique que vous voulez. En direct à la radio. Voilà. Je voulais parler un peu de Bayeux, moi, la ville, village de Bayeux, c'est pas très très grand. Elle, vous voulez vous parler d'escroc, mais un escroc qui a vendu la Tour Eiffel. Ouh. Mais on va vous laisser ça pour une prochaine fois. On veut que Elle se rétablisse et qu'elle vienne nous parler elle-même de son escroc à la Tour Eiffel, que j'avais jamais entendu parler. Mais ça paraît évident, hein, d'essayer de vendre une tour à quelqu'un. Max voulait parler de lui parce que non, c'est pas vrai. Max voulait juste faire la techno, mais j'ai dit à Max, mais est-ce que tu as parlé de toi les deux dernières fois? Il m'a dit, ouais, bah non, j'ai parlé du théâtre, mais pas de moi. Donc on va le cuisiner un petit peu. Et puis on va passer beaucoup de musique parce que j'ai fait de la recherche pour ce soir et je suis tombé sur des trucs. Et puis donc j'ai un thème musical. Bah, en fait, j'ai deux thèmes musicaux.
Puis voilà. On aime bien toujours découvrir plein de nouvelles chansons. Donc,
voilà. Alors on va se lancer. Ah, est-ce qu'il y avait des annonces ce soir? Il n'y a pas d'annonce?
Non, j'en ai pas. T'en as?
Annonce, théâtre, chanson. Je sais qu'Elisabeth peut jouer ce soir au théâtre, hein, c'est ça? Mais je me rappelle plus de la pièce. C'est pas grave.
Où ça? Tu sais où c'est?
Elisabeth, ben, je me rappelle plus. Il y avait un lien Facebook quelque part et j'étais à la radio. Je suis à la radio, donc je pouvais pas y aller. Donc j'ai pas répondu. Enfin, c'est pas grave. Bourville, c'est pour Else. Ça s'appelle quoi le nom de la chanson encore?
Alors, Else nous a demandé de passer au Petit Bal Perdu, une chanson de Bourville.
Ouais, c'est la guinguette, ça, c'est
voilà. Bien. Donc, Else, on pense à toi, remets-toi bien.
Gros bisous.
C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert. Sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien, et c'était bien. Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux, il faisait la même prière d'être toujours, toujours heureux. Parmi les gravats, il souriait dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes amis. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Et puis quand l'accordéoniste s'est arrêté, ils sont partis. Le soir tombait dessus la piste, sur les gravats et sur ma vie. Il était redevenu tout triste, ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant de lumière avec eux dans la rue. Alors la belle affaire, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien.
Donc c'était Bourvil, petit coucou à Els, qui a choisi cette chanson au petit bal perdu. Voilà, très sympa. Moi, comme thème musical, sinon après j'aurai le thème musical des mots, ça s'appelle M-O-T, mais il y a les mots M-O-T-S au pluriel, mais les mots M-A-U-X aussi. Donc je vous passerai une chanson qui joue sur les deux. Mais d'abord, je passerai autre chose. Donc je voulais vous parler de Bayeux, le petit village de Bayeux. Bon, c'est en Normandie, ça c'est dans le Bessin, et le Bessin c'est une sub-région entre dans le Calvados. Calvados c'est l'un des 5 départements, et cette région du Bessin en fait, je vous en parler brièvement. Où c'est, on dit pas région en fait, on dit un pays aussi en français. C'est rigolo, mais c'est comme ça.
C'est quel coin de la France, David ?
C'est la Normandie.
Ah,
donc le nord-ouest, entre logé entre la Bretagne et la Picardie, la Normandie. Et donc là, le Bessin normand, c'est en fait le nom de Bessin, ça vient du pays de Bayeux. C'est le pays autour de Bayeux. Et qui en romain c'était Pagus Baiosensis. Je ne sais pas si je prononce bien, j'ai fait du latin, mais c'était il y a très longtemps. Et donc ces habitants gaulois étaient les Bajocas, et ils sont aujourd'hui, on les appelle les Bessinois ou les Bayeusais, je crois. Enfin voilà, ça c'est pour les gens qui habitent Bayeux. En fait, il y a une petite histoire sur les habitants de Bayeux. Il y avait les Bajocas, c'était les gens de Bayeux même, de souche. Et les Bayeusais ou Bayeusais sont les gens importés. Mais ils habitent Bayeux, mais importés. Mais je crois que le mot officiel maintenant moderne, c'est Bayeusais. Enfin bon, tout ça pour dire. Donc c'est le Bessin, c'est la région donc autour de Bayeux. C'est une grosse région, c'est plus que la ville de Bayeux. C'est dans le Calvados donc. Mais ça regroupait les villes et les territoires entre l'Orne et la Vire, qui sont donc deux belles rivières normandes. Et donc les villes de Caen et de Vire, Caen c'est la capitale de la Basse Normandie quand même, une grosse ville maintenant, étaient en fait historiquement bessinoises. C'était dans le bassin, dans la région du Bessin. Donc en fait Bayeux c'était presque plus gros que Caen et tout ça. Maintenant c'est tout petit hein, en fait. Voilà. Donc c'est à cheval entre les départements du Calvados et de la Manche. Pour vous situer tout ça. Voilà. Donc Bayeux c'est très vieux, donc il y avait des Gaulois et puis il y a eu des Romains. Donc je voulais vous dire ça. Pour maintenant, il n'y a que 13 656 habitants au dernier peuplement recensement, donc il y a quelques années de ça, pas longtemps mais quelques années. Et comme je disais, on les appelle les Bajocas ou les Bayeuses. Et ça se situe dans le département du Calvados maintenant, le Bayeux. C'était donc une ville déjà au 1er siècle avant Jésus-Christ, Donc c'était une ville gauloise. Et puis donc c'est devenu une ville romaine, et donc au 4e siècle après Jésus-Christ, c'est même devenu un évêché. Donc c'était assez gros, assez important pour être un évêché. Fallait un évêque. Pour être un évêque, il fallait être responsable de toute une région au niveau de la religion. Et c'est même devenu une sous-préfecture du Calvados. Donc c'est petit, hein, 13 000 habitants. Mais techniquement, c'est une ville assez importante. Bon, allez, cette ville est célèbre pour sa tapisserie. Et je vais vous en parler parce que je suis normand. Et je suis rentré en Normandie pendant 6 semaines. Et j'ai fait un beau tour de la Normandie avec mes enfants, ma femme et mes parents, dont Bayeux. Donc j'ai revu cette belle tapisserie. Donc je vous en parlerai pour quelques minutes. Donc cette tapisserie qui raconte la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant et qui est exposée au Centre Guillaume le Conquérant et c'est inscrit depuis 2007 à Mémoire du Monde de l'UNESCO quand même. Je vous invite, si vous êtes en Normandie, si vous êtes dans le Calvados, mais aussi sur le bord de mer ou dans l'Orne ou dans Seine-Maritime, c'est pas très très loin. Il y a pas des millions de kilomètres à faire. Vous pouvez aller voir Bayeux. C'est très mignon. Géographiquement, donc il y a la rivière qui s'appelle l'Aure, L'AURE, qui est très mignonne, petite, qui se jette dans la Vire, je crois. Et l'Aure, donc ça passe et ça donne une impression de canot un peu, mais pas, il n'y a pas 10 000 canots, hein, c'est pas Bruges ou Venise, mais donc il y a cette importance de la rivière et de beaucoup de verdure. Et donc comme c'est une ville très très ancienne, il y a ce côté médiéval. La cathédrale Notre-Dame est assez ancienne aussi, je crois que c'est entre le 11e et 13e siècle. Et puis donc il y a une culture moderne de Bayeux, c'est-à-dire que il y a des choses à faire et à voir, il y a du tourisme, ce qui fait qu'il y a un peu un village qui vit à 13 000 habitants. On se dit bon, ça va être paumé, mais du fait de cette rivière, des canaux, de la cathédrale, de la tapisserie donc qui est à visiter, tapisserie de Bayeux. Et puis il y a pas mal de petits restaurants, de bars, de côtés sympas, que ce soit sur la grande place, sur la rue principale ou sur les bords de la rive de l'Aure. Donc c'est assez sympa. Voilà. Et puis c'est pas très loin des plages du débarquement. C'est à je crois entre 25 et pour les plages les plus proches c'est 25-30 km et bon, puis il y a des plages à 70 km les plages du débarquement, mais donc ça a eu une importance aussi pour les combats de la bataille de Normandie. Donc voilà. Donc voilà pour Bayeux. Je vous invite à y aller, c'est quand même assez sympa. Honnêtement, il y a plein de choses à faire et d'autres choses à voir. Il y a un musée de la gare 39-45 à Bayeux même aussi. Donc les places du débarquement, je vous dis, à environ à 30 km, 25-30 km. Ah oui, pardon. Caen n'est pas très loin, donc la capitale de Basse-Normandie, Caen n'est qu'à 30 km. C'est desservi par les axes routiers, la route nationale 13 et ferroviaire Paris-Caen-Cherbourg. Donc on peut y aller à partir de la gare Saint-Lazare à Paris si vous êtes parisien. C'est assez sympa et assez rapide, c'est facile. Donc Bayeux, au niveau de la Normandie aussi, l'histoire c'est la tapisserie. Donc je vais vous en parler en deuxième, mais d'abord je vais vous passer une chanson qui m'a mis mon thème des mots, le thème des mots. En fait, là, il y a un mois, je vous ai passé une chanson de Carrie Mouche, donc une chanteuse que je ne connaissais pas à l'époque et que j'ai découvert grâce à la playlist Apple. Mais là, c'est sur Spotify, et pour pas faire de pub. Et ça s'appelle Des mots démodés, et ça joue sur les jeux de mots. Mots. C'est une chanson d'amour qui parle avec un peu. C'est un tango. Avec accordéon et tout ça, tout le soin de soin, et j'ai trouvé ça assez sympa, et ça donne une autre facette que la chanson que je vous ai passée il y a quelques semaines. C'était Action, qui était une chanson politico-engagée sur le côté les caméras caméras dans toutes les villes, comme les caméras dans les voitures de police, les caméras dans les magasins, les caméras partout. Donc vous êtes tout le temps, si vous faites Facebook ou Instagram. Donc en fait, c'était une chanson assez sociale et politique de Carrie Mouche qui racontait on est tout le temps sur surveillance, quoi. Voilà, que ce soit notre vie privée ou publique. Donc voilà. Et donc je vous passe une autre facette de sa musique. Et donc les mots démodés de Carrie Mouche. Si je retrouve, bah si j'étais dessus. Pardon, je suis désolé. J'étais dessus. On va lancer ça. Je monte le son.
Vas-y David.
Tout va bien.
C'est parti. Tu rêvais des mots doux. Tu disais des mots tendres au premier rendez-vous. Je me suis laissé prendre. Tu me donnais du goût, des mots de notre langue. Ils enlaçaient mon cou et j'adorais m'y pendre. Tu me disais des mots, des mots, des mots, des mots de rien du tout. Des mots, des, qui me parlaient de nous. Des mots, des, qui me parlaient de vous. Des mots, des mots, des mots, des mots, des mots qui me faisaient un effet fou. Peu à peu les mots tendres ont déserté ta bouche. T'as préféré te vendre à des mots bien plus louches et sans bien le comprendre. Le désir s'est enfui, j'ai cessé de me pendre à tes mots évanouis. Je les ai oubliés, les mots des mots de rien du tout. Les mots de, qui me parlaient de nous. Des mots de, qui me parlaient de vous. Des mots, des mots, des mots, des mots, des mots qui me faisait un effet fou. Aujourd'hui tu voudrais serrer à pierre fendre les mots du passé pour pouvoir me reprendre. Mais ils n'ont plus le goût, le goût de l'âge tendre. Ils se sont fanés, ils sont devenus cendres.
Voilà une autre facette de Carrie Mouche.
C'était joli ça.
Ouais, j'aime bien, c'est différent. Je vais vous passer une autre chanson.
C'est qui Carrie Mouche? Tu connais un peu?
Mais j'allais, c'est mon troisième thème, j'ai pas le temps de développer, mais je peux faire sûrement
une
recherche et regarder. Mais voilà, c'est en amont, Carrie Mouche. Je vais épeler pour nos compatriotes.
Avec Kiwi, un K?
Avec un K, A-R-I-M-O-U-C-E. CH comme
bah
la mouche,
Carrie.
À mon avis, elle s'appelle sûrement Karine et elle a mis Carrie Mouche. Mouche, je sais pas pourquoi, c'est peut-être son nom. Donc on va faire Monsieur Google ou Monsieur Wiki, on va
c'est
trouver.
Parti.
Voilà. Donc c'était Carrie Mouche. Attends, oui, j'ai démodé. On revient à Bayeux.
Bah oui.
Cette fois-ci la tapisserie. Alors,
jamais vu. Ah ben, je l'ai étudié en histoire de l'art, je ne l'ai jamais vu.
Voilà. Bah, en fait, c'est plus. Moi, je l'avais fait ou visité, j'avais 10, 11 ans et je. Mais je sais pourquoi je m'en rappelais pas. Ben, je m'en rappelais bien de la tapisserie, mais je m'en rappelais pas bien de vraiment sa taille, parce que elle est quand même assez impressionnante. Elle fait 50 centimètres de hauteur, donc la moitié d'un mètre, et on pourrait croire qu'elle est trop petite. Mais je sais pourquoi. C'est parce que quand j'étais à l'école, après qu'on ait visité la tapisserie de Bayeux, on a pris le bus, machin, et toute une journée en Normandie, et puis. Dans l'école, on avait mis tout autour, parce qu'elle fait,
oui,
68 mètres.
Oui, voilà.
Oui, 68 mètres de long.
Oui, elle est très longue, mais très fine.
Oui. Et donc, on l'avait mis en tout autour d'une grande salle. On l'avait mis, mais en fait, ce qu'on avait mis, c'était une copie qui est large de 10 cm de haut.
Oui, pour pouvoir.
Donc, elle est, les copies que j'ai achetées, d'ailleurs, j'ai acheté au musée. J'ai acheté la copie, elle fait 10 mètres de haut, et bon, elle fait la, un quart de la longueur, donc elle fait 20 mètres de longueur quand même. Donc, à l'école, il fallait qu'on trouve une pièce de 20 mètres de long. Donc, on a pris deux pans de mur, et puis on visitait la tapisserie de Bayeux, puis le prof, la maîtresse, je pense, cette année-là, nous racontait l'histoire de la tapisserie de Bayeux, etc. Et donc là, je la vois en chair et en os, cette belle tapisserie de Bayeux, et honnêtement, c'est mieux que ce que je me rappelais. Honnêtement, c'était super. D'une, parce que la tapisserie elle-même, c'est grand, hein, je vous dis, 60 mètres, 68 mètres.
Alors, ils font comment justement pour l'exposer, 60 mètres
Je vais vous dire, dans le temps, quand je l'avais visité il y a une quarantaine d'années, c'était.
T'es si vieux que ça?
Ouais. bientôt 50 ans, donc voilà. La pièce, donc c'était comme à l'école, ils avaient mis dans une caisse carrée ou rectangulaire, tout autour du mur, sur les murs extérieurs. Et là, c'est dans une nouvelle salle. Là, ils ont fait le contraire, en fait. Donc, c'est une très, très grande pièce carrée encore, cubique. Mais là, dedans, ils ont mis un très gros bloc carré. Donc, vous imaginez un carré dans un carré.
D'accord.
Et... En fait,
David est en train de nous faire un dessin.
Ouais. Le carré extérieur, c'est pour circuler.
Eh oui, d'accord.
Et la tapisserie.
Donc c'est pas sur le mur extérieur,
non,
ils ont créé un mur
intérieur,
à l'intérieur, comme dans un musée.
Carré, voilà.
D'accord.
Mais qui est complètement carré et très grand. Et puis donc c'est 68 mètres, donc on a 68 mètres. Et donc ce qu'ils ont fait de très bien, c'est bon, c'est pas interactif parce qu'on fait rien, mais ils nous donnent il y a une douzaine de langages, des trucs audio. Et donc, en fait, cette tapisserie, qui est superbe, hein, je le dis, j'ai très vraiment très impressionné encore. Même si je l'avais vue il y a presque 40 ans, je m'en souvenais vaguement, mais ça m'a un peu époustouflé. Et mon gamin Léon a beaucoup apprécié aussi. Ma femme, enfin tout le monde a.
Elle est protégée.
Oui,
ils mettent un verre.
Et elle est illuminée, très bien illuminée. Et en fait, ce qui se passe, c'est une broderie, hein. Tapisserie, broderie. Tapisserie au point d'aiguille, voilà. Donc c'est une broderie, ce qui est du 11e siècle. Et en fait, elle est très bien détaillée. Il y a un panneau presque tous les mètres. Des fois c'est 60 cm, des fois c'est 1m30. Mais en fait, il y a un panneau thématique. Et c'est linéaire, c'est-à-dire c'est historique. Donc ça raconte le père de Guillaume le Conquérant. Qui était à l'époque Guillaume le Bâtard, en fait, qui est né à Falaise, pas très loin, que je vous recommande de visiter aussi. Falaise, c'est très sympa. Le château, les ruines du château, le château sont très sympas aussi. Caen, qui est une ville qui était la capitale pour Guillaume le Conquérant aussi. Donc tout ça, c'est quand même chargé d'histoire. Et si vous êtes normand, même anglo-saxon, en fait, donc ça lie les Néo-Zélandais qui sont descendants d'anglais, puisque quand même, les Romains étaient allés en Angleterre, mais ils n'avaient pas conquis l'Angleterre. Le mur d'Adrien s'est arrêté environ à 300 km, donc tout le nord n'avait pas été conquis, mais Guillaume le Conquérant reste la seule invasion de l'Angleterre. Personne n'a jamais conquis l'Angleterre, sauf Guillaume le Conquérant, donc un franco-normand, un normand, qui a conquis ce pays, donc qui donne beaucoup de choses à l'Angleterre. Cette bataille de Hastings de 1066, Donc qui est raconté dans la tapisserie, mais la tapisserie raconte un petit peu plus. Donc je rappelle, elle raconte la bataille entre Harold qui est Guillaume, et Guillaume c'était le demi-fils à la fin du règne d'Édouard le Confesseur. Donc il décède, et puis il n'a pas de fils direct. Il a un bâtard, Guillaume le Conquérant, et Guillaume dit c'est à moi de devenir le roi d'Angleterre. Je sais, je suis en Normandie, je suis le duc de Normandie, mais je suis aussi le descendant du roi d'Angleterre. Et t'as Harold Godwinson qui dit c'est moi le roi d'Angleterre. Toi t'es un bâtard, donc t'as pas le droit. Mais lui c'était un cousin ou un neveu. Donc il avait moins de droit de dire, mais il devance Guillaume au niveau du timing, du tempo, et il se fait couronner roi. Et en fait il demande aux autres. Mais en fait Harold aussi, pourquoi il se fait couronner roi? Parce qu'il y a une autre histoire, c'est que dans le nord, donc vers l'Écosse, il y avait les Pictes, les Anglo-Saxons, les Saxons et tout ça, et les Vikings qui envahissaient. Rappelez-vous, c'est 1066, il y a encore des Vikings, encore des gens du nord, qui attaquent sans cesse, c'est les Vikings. Donc Guillaume le Conquérant lui-même était un ancien, pas lui, mais son arrière-grand-père était Roland était venu de Norvège ou du Danemark, et avait conquis la Normandie. Donc c'est pas si loin que ça, c'est 800 et des brouettes, 860 à 940, l'invasion de la Normandie par les Vikings. Donc trois générations plus tard, Guillaume le Conquérant, lui est maintenant francisé, par français, attaque l'Angleterre parce que il veut. Pour lui, c'est lui qui a le droit. Hein. Il est en mission divine. Donc la tapisserie vient en fait d'Angleterre.
Elle a été faite en Angleterre.
Été faite en Angleterre. Oui, oui. Et il la commande
au Moyen Âge, au début du Moyen Âge.
En 1062, deux ans plus tard, en fait. Finie sûrement en 1082. Et elle a été commandée par Odon de Bayeux. Odon, en fait, c'est le demi-frère de Guillaume le Conquérant, et c'est l'évêque de Bayeux. Donc l'évêque de Bayeux, il s'appelle Odon, c'est le demi-frère d'une autre maman, d'un autre père, d'un autre père, pas d'une autre maman, de Guillaume le Conquérant. Et donc il est un peu plus jeune que lui, et il participe à la bataille de Hastings. Il va en Angleterre, il participe à la bataille. Il est évêque à l'époque, déjà pendant la bataille. Et ce qui se passe, c'est que, j'ai appris ça en visitant le musée, les évêques, les prêtres à l'époque, ou les moines guerriers pouvaient être guerriers, participer aux guerres, mais surtout si c'était religieux. Rappelez-vous, pour être le roi, on est roi à cause de Dieu, hein, on a un droit divin, quoi, hein, c'est ça, pour ça qu'on est roi, quoi. Ou on va aux croisades parce que Dieu vous a commandé d'aller aux croisades, chercher le linceul du Christ, etc., etc. Eh bien, les évêques, tous les religieux avaient le droit d'aller en guerre, mais ils n'avaient pas le droit de tuer. Donc, ce qu'il faisait, c'est Odon, et c'est très bien mis sur la tapisserie. Odon, il va avec un club, donc un bout de bois, genre massue ou genre batte de baseball en bois. Et donc, il a le droit d'assommer, il a le droit de casser des bras, des jambes, des têtes des fois, mais techniquement, il ne doit pas tuer, il ne doit pas verser de sang, d'accord? C'est la technique, hein, c'est le truc. Donc, les guerres de religion, c'est d'où ça vient. Donc, les prêtres avaient le droit, donc lui, l'évêque, il dit, tu suis ton demi-frère, ta prétention au royaume d'Angleterre, je vais t'aider, moi je viens, puis je vais haranguer les troupes, je vais les bénir, tout ça. Donc, Odon participe donc à la bataille d'Hastings, et quand il revient en Normandie quelques années plus tard, et qu'il est toujours évêque de Bayeux, c'est là où il commande la tapisserie de Bayeux, donc la broderie qui est si belle.
Alors, quand on dit tapisserie en français, on pense aux tapisseries où tout est couvert par du fil. Oui. Alors que ça, c'est la tapisserie de Bayeux, c'est vraiment de la broderie.
C'est de la broderie.
On voit le lin. Hein.
Et voilà, il y a le lin qui est très très grand, en fait, et en fait qui a été repatché, je ne sais pas comment on dit en français, mais qui a été cousu à plusieurs endroits. Donc c'est un peu comme un patchwork aussi, c'est entre les deux, c'est entre de la broderie très très détaillée et très fine. Hein. Il y a d'ailleurs les commentaires audio que j'ai entendus pendant la visite passent quelques temps sur quelques détails qui sont honnêtement très 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 beaux, hein, surtout les armureries, les côtes d'armes,
tout ça, ou les bêtes. Surtout des chevaux.
Les chevaux, mais il y a les bêtes aussi, parce que la tapisserie en fait est en trois parties. Pourquoi elle est si haute de 50 cm? C'est parce que il y a l'histoire principale sur environ 30 cm au milieu. Donc c'est les chevaux, les drakkars, la bataille, tout ça, les rois, les archers, la bataille quoi. Avant la bataille, après la bataille, je vous ai dit des drakkars pour traverser la Manche, etc., etc. Donc toute l'histoire. Et le père de Guillaume qui décède avant, donc Édouard le Confesseur. Et puis Harold, le prétendant au trône, qui est l'usurpateur. Donc tout ça. Donc il y a tous ces détails-là. Et c'est tout au milieu, d'accord, sur environ 30 cm. Hein, c'est peut-être un peu plus grand, j'ai pas mesuré, hein, j'étais pas, on peut pas s'approcher vraiment. Je vous ai dit, c'est derrière une vitre. Le haut, c'est beaucoup de textes. En fait, donc c'est là où ça raconte l'histoire.
Brodé,
oui. Là, les textes sont brodés. Et là, c'est du brodé, c'est du gros, hein, levé, c'est un pied, c'est un petit point, une ligne de tissu et hop, un petit point. Donc ça, c'est, mais en dessous, donc tout en dessous, les derniers 10 cm du bas, c'est peut-être 7 cm, me demandez pas, ce sont beaucoup de caractères qui définissent l'époque ou les croyances et tout ça. Donc il y a des dragons, il y a des lions, et il y a aussi plus de détails sur l'armement ou sur les chevaux ou des trucs comme ça. Donc c'est comme si la tapisserie avait été demandée, tu vas en haut, tu vas écrire des choses là en latin, qui est arrivé, qui est parti, qui a gagné, qui est qui, etc. Donc t'as Odon, Odon S Avenum, blablabla. J'ai une image devant moi. Et puis après, donc t'as un peu l'histoire dictée grossièrement en haut sur le haut du panneau, et sur le bas du panneau, tu as les détails tels que je vous dis les lions, les armements, les haches, des trucs comme ça. Et l'histoire elle-même, c'est qu'au milieu, notre armée.
Alors dans mon souvenir, l'histoire dont tu parles là au milieu, elle est découpée
en panneau,
en scénettes.
Ouais, en panneau,
il y en a une cinquantaine, je sais plus. Ça se lit comme une BD en format. C'est comme ça qu'on nous l'avait présenté en histoire de l'art. C'est la première BD.
C'est la première BD géante.
C'est frame by frame. Panneau par panneau.
Exactement.
Et ça se lit. Il y en a combien? 40, 50,
ou 50, ou 62, ou je sais plus. Et c'est numéroté en fait maintenant. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que...
Et c'est dans un ordre chronologique qui fait une narration d'une histoire. Donc c'est exactement comme une BD.
Et à mon avis, c'est pour ça que ça marche encore. C'est moderne parce que...
C'était excessivement moderne pour l'époque. Hein.
Mais même maintenant, tu te dis, attends, le mec, il a fait ça il y a 1000 ans. Parce que, 1066, c'est presque il y a 1000 ans, hein, non, 40 ans, on y est. Et c'est dément, quoi. Et ça reste d'actualité parce que c'est pensé successivement, narrativement, un peu comme une BD, par panneau. Mais en même temps, c'est lié. C'est très beau ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que, par exemple, quand les bateaux, quand ils commencent à faire la broderie des bateaux, donc ils font la construction du bateau, donc ils montrent les arbres en Normandie qui sont coupés, et puis après ils font les mâts, les rames, tout, des drakkars. Et puis donc on voit ça dans le panneau d'après, donc ils préparent à la guerre, c'est le panneau où ils expliquent que c'est la préparation à la guerre, ils construisent plus de bateaux, machin. Et après on les voit traverser ce bateau, donc c'est le panneau, allez on dit que c'est le panneau numéro 7, c'est la traversée. Donc c'est les mêmes bateaux, mais ça continue. Et puis, mais ça c'est un autre temps. C'est peut-être 6 mois plus tard. C'est peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une tramée, un temps dans
un sens de
un sens de narration, et en même temps, il y a une continuité. C'est très très bien pensé, quoi. C'est fantastique.
Et aussi, nous à l'école, on nous avait parlé aussi des couleurs.
Ah, énorme, c'est.
Parce qu'elles sont limitées. À l'époque, ils faisaient leurs couleurs
elles-mêmes. Oui, elles sont limitées, mais ils ont fait un tour de force. C'est qu'il y a des bruns, des jaunes, des noirs. Il y a un peu toutes les couleurs. Mais ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont utilisé dans leurs limitations, c'est qu'ils ont utilisé des lignes, en fait. C'est-à-dire que des fois, ils ont fait genre carreau ou ligne verticale ou ligne horizontale pour dépeindre tel type de par exemple un cheval noir ou un peu gris pour définir un cheval d'un autre. Il y aura un cheval noir avec une tramée, les lignes sont verticales, et un autre cheval noir avec les lignes sont horizontales, etc., etc. Donc la tramée, la broderie elle-même est fabriquée différemment pour que chaque armurerie, chaque soldat et chaque cheval soit différent. Donc je crois que l'un des commentaires, je l'ai pas devant moi, il y a beaucoup de vous pouvez voir sur Wiki, mais il y a d'autres sites internet à voir, mais dans la conversation, l'audio de la tapisserie de Bayonne, dans la visite, il disait qu'ils ne se sont pas répétés. C'est-à-dire que chaque soldat, c'est un soldat unique. Ils se ressemblent tous, mais si on regarde vraiment très bien, ils ont une dizaine de couleurs, et après, ils répètent les couleurs avec des motifs un peu différents. Et pour les chevaux, c'est pareil.
Mais c'est pour un souci d'authenticité, de façon à ce que la narration de l'histoire, on se mélange pas les pinceaux en lisant, on sache qui est qui et qui n'est pas qui.
Voilà, et surtout aussi pour dire qu'ils pouvaient pas mettre, il y avait 3000 soldats, je crois, je me rappelle plus, c'était pas des millions, hein, ils ont pas conquis, c'est pas l'armée allemande,
non,
100 000 soldats
beaucoup,
qui arrivent, je sais plus, c'est 1600 d'un côté, 1400 de l'autre, donc c'est des petites armées, ben c'est grand pour l'époque, mais c'est petit pour et donc ils peuvent pas dessiner 1600 personnes, donc il y aurait pas assez de 50 mètres de 60 mètres de tapisserie, donc c'est le subterfuge pour faire le nombre. Le nombre vient dans le choix des couleurs et le choix de la broderie, du sens de broderie. J'ai pas les bons techniques, mais donc honnêtement, ça vaut le coup si vous êtes en passage en Normandie, que vous allez voir un peu d'histoire normande, anglaise, parce que c'est la bataille d'Hastings, donc 1066.
Quand est-ce qu'elle est revenue en Normandie, la tapisserie ?
Oh bah peu après, puisque Odon, lui, il est mort à Bayeux, et il était évêque de Bayeux, donc Odon, il est dedans, c'est lui qui fait la commande, et je crois qu'ils disent que ça a sûrement pris entre 1066 et 1082 pour la faire. Donc,
oui, ça, j'avais un souvenir qu'il fallait 20 ans.
Ça a pris 16 ans pour la faire, oui. Donc vers 1082, il a pris possession. Et après, pour la petite histoire, c'est que les gens disent, mais comment ça a fait pour survivre tout ça? Bah, pendant les deux guerres mondiales, ça a été enterré, caché, machin, tout ça. Ok, d'accord. Mais sinon, tous les ans, au mois d'octobre, puisque la bataille d'Hastings, c'est, je crois, le 16 octobre 1066, tous les ans au mois d'octobre, Odon avait demandé que la tapisserie soit en exhibition pendant une semaine, voire un mois, dans l'église, dans la cathédrale.
Super.
Et donc, pour rappeler que les Normands avaient conquis. Donc, ça a commencé avec Odon, et après, les maires successifs, puisque la Normandie a été reconquise juste après, en 1100, le roi Saint-Louis, je crois, a reconquis la Normandie, donc en 1100. Il y a un traité de Lept, je crois, juste à côté de ma ville, juste à côté de Vernon. Donc le traité de Lept a repris la Normandie aux Normands, et donc est revenu aux Français, à la couronne. Mais les futurs les évêques, les futurs normands ont continué pendant des centaines d'années à faire ça. Ça a été plus ou moins caché, mais ça a survécu à toutes les guerres, la révolution, tout. Donc c'est fantastique, quoi. Donc honnêtement, c'est mémoire du monde pour l'UNESCO, moi je trouve ça normal, c'est vraiment super. Voilà. C'est pour les gens d'art aussi, surtout l'art du décor et du costume. C'est énorme parce que tous les habits, les casques, par exemple, toutes les armes, c'est d'époque. Hein, les Anglaises qui ont cousu cela à la main, qui ont brodé ça à la main, ont pris des vrais exemples. C'est pas raconté 400 ans plus tard, c'est raconté 2 ans plus tard, presque la même année, ils commencent et ils finissent 18 ans plus tard. Donc l'armement, les costumes, tout ça, la manière dont ils mettaient les selles sur les chevaux, c'est tellement, il y a tellement de beaux détails que au niveau historique, c'est énorme, quoi, le détail. Pour les habits, juste pour l'histoire du costume médiéval, c'est bon là. Tu vas voir la tapisserie, t'es content, t'as tout compris. Enfin voilà.
C'est fascinant.
Donc honnêtement, ça vaut le coup. Et c'était pas cher. Je crois que c'était 8€ l'entrée pour les adultes et 4 ou 3 pour les enfants. Et puis les enfants de moins de 7 ans, je crois. C'était gratuit.
Et ça prend combien de temps un peu de
faire l'expo? Comme c'est panneau par panneau, ils font environ une minute par panneau. En 45 minutes, 50 minutes, c'est fini.
D'accord.
Donc c'est bien fait. On peut retourner en arrière et tout, mais comme c'est un truc audio que je conseille à tout le monde. Hein. Faites pas la bêtise de dire
Oh,
je vais pas avoir. Honnêtement, l'audio,
c'est
100%. C'est 100%. Faut la voir. Et c'est dans beaucoup de langues, beaucoup de langues. Je crois que c'est 11 ou 12 ou 13 langues.
Super.
Donc ça vaut le coup.
Voilà, on se fait une petite page musicale.
Oui, petite page. J'ai parlé beaucoup, puis je vais m'assécher. Il faudrait que je boive un coup. Je passe de Carimouche à l'une de mes chansons préférées de Monsieur Nougaro, qui est en direct, en concert avec Maurice Vanders. Et ça s'appelle Les Mots. Donc je passe démodé à Les Mots. Et donc c'est Maurice Vanders au piano et Claude Nougaro en chanson.
Les mots divins, les mots en vain, les mots de plus, les mots. Les mots pour rire, les mots d'amour, les mots dits pour de mots. Dire. Les mots bruissants comme des rameaux, les mots ciselés comme des émaux, la faim de mots, la soif de mots qui disent quelque chose. Les mots chéris qui sur mes lèvres n'ont pas trouvé leur place. Les mots muets, les mots bués comme un baiser sur la glace. Les mots bouclés, clés de l'espace, les mots oiseaux qui laissent des traces, les mots qui tuent, les mots qui muent, les mots tissants, les mots. Les mots pâlis, les mots salis, les mots de prédilection. Les mots qui te caressent comme des mains. Les mots divins, les mots de vin, les premiers mots, la fin des mots.
Voilà, c'est donc
t'aimes
Claude
Nougaro.
Nougaro,
toi?
Ah, j'ai découvert Nougaro surtout par cet album-là. Alors, cet album-là, c'est une voix d'Idois. Et donc, d'Idois, parce que c'est Maurice Vander au piano. Et c'est Claude Nougaro à la voix. Et il a fait ça, je crois, en 93. Et c'est l'année où, de ma dernière année d'université, première année de militaire. Et
J'ai jamais accroché une opéra.
C'est un double. Ah, moi non plus, avant non. Puis surtout le Douga York, machin, ce qu'il avait essayé dans les années 80, c'était de se révolutionner. Il y a pas mal de musique et de chansons que j'aime beaucoup des années 50-60 parce qu'il était très jazz. Hein. C'est lui. En fait, c'est lui le jazz, le chanteur jazz français, c'est lui. Mais il y a très peu de gens qui connaissent pas parce qu'il ne se rappelle que de New York, que des années 80 où il va à New York parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le jazz, c'est fini à partir des années 80. Le jazz, c'est complètement démodé. C'est rock, pop, acid house, machin, tout ce que tu veux. Mais plus de jazz. Donc ça passe pas à la radio. Donc Nougaro passe pas à la radio. Ses concerts, c'est de plus en plus vide. Parce que ce qu'il fait, c'est vraiment du jazz. Hein. C'est du Duke Ellington. Mais il met ça en parole. Et parce qu'il a commencé comme ça, il continue. Et donc il se dit bon, je vais à New York, je me barre, je fais un truc moderne. Donc j'y rencontre des rappeurs, machin, à New York, toc 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 toc. Donc c'est du rap jazz moderne. Et ça fait un tabac. Il revend quelques millions de CD. Et donc il revient en fort. Mais ce qui se passe, c'est que les gens, les jeunes surtout, demandent New York. Et lui, comme il est têtu comme une mule, bon Toulousain, et il dit non, moi j'en ai rien à faire, je veux pas changer New York, c'est du caca. Et il le dit texto. Hein, j'ai un copain qui était à Subdeco Brest, qui invite Nougaro, donc c'est années 80, il invite en 91, je crois 90-91, à Subdeco Brest pour faire concert de fin d'année Subdeco. Donc,
Dis donc, les concerts de Subdeco.
Bah, oui, mais Subdeco, c'est Subdeco, donc il y a commerce dedans, donc il faut faire du bifton. Il faut faire du bifton, chaque année ils invitent des chanteurs, ils font un gala quoi. Et donc ils font des sous, c'est comme ça qu'on devient Subdeco. Enfin bon. Et Nougaro, il dit d'accord, je veux bien, mais je vais pas chanter New York, hein, je vais chanter mes classiques. Et donc la gueule, parce que les étudiants, les classiques, c'est des trucs des années 50-60, et c'est que du jazz. Donc ils font la tête. Et donc cet album sort en 93, et c'est Maurice Mander et Claude Nougaro en concert. C'est un double album, il y a énormément de chansons. Et c'est en fait, c'est presque tous ces classiques, donc des années 50-60-70. Toutes ces musiques de jazz, mais retraitées pour piano seulement, donc 10 doigts et sa voix. Et je suis tombé, mais complètement amoureux de ce double album, et ça m'a fait redécouvrir Nougaro. Je connaissais quelques-unes de Toulouse, c'est très connu, évidemment, c'est un des classiques. Cécile, ma fille, aussi un des classiques. Mais ça, c'est ces chansons, en fait, moins jazz. Toulouse, c'est pas vraiment jazz. Cécile, ma fille, c'est pas vraiment jazz. Ce sont ces chansons plus personnelles et donc un peu plus, pas pop, mais chansonnette française, quoi. Et donc, je redécouvre ces chansons de jazz via cet album piano et que j'ai ramené en Nouvelle-Zélande. Maintenant, j'ai sur Spotify. J'adore cet album. Et ça m'a fait redécouvrir ces classiques qui, en fait, sont super jazz. Enfin voilà. Parce que ce qu'il faisait beaucoup, c'est que lui, il piquait du Duke Ellington, beaucoup de musique américaine, du Louis Armstrong, et il écrivait ses chansons dessus. Donc il y a des chansons, mais c'est nunuche quoi. Les paroles, si vous écoutez, c'est un peu n'importe quoi. Bon, c'est un peu très léger, c'est très léger. Il y a pas beaucoup de, c'est pas super intellectuel, mais il fait ça parce qu'il adore la chanson, donc il trouve un thème et il écrit une chanson sur un thème de Duke Ellington ou de Louis Armstrong. Voilà. Enfin voilà, c'est
t'es
pour.
T'es dans le jazz, Max? Moi pas du tout.
Non, ouais. Pas du tout. Non. Nougaro, c'est un peu plus vieux.
Mais le jazz en général.
Jazz, non, c'est un plus.
Moi, je suis très jazz.
Oui, ben j'avais cru comprendre. Ouais. Je sais pas, moi, c'est un truc qui a jamais accroché. En plus, j'ai du mal à accrocher à l'harmonie du jazz, quoi.
Bah, il y en a pas, c'est.
Ben, c'est justement, et ça me pose des problèmes d'oreilles.
Il y a beaucoup de liberté.
Ça m'irrite.
Moi, j'adore le jazz parce que c'est probablement la forme de musique la plus libre. C'est-à-dire qu'il y a des 10 000 façons de faire du jazz. Il y a le jazz blues en plus, puis il y a le jazz rock, il y a tous les jazz, et c'est une musique qui s'adapte énormément à toute modernité. C'est-à-dire que quand le rap est apparu, le jazz peut prendre du jazz, du rap, mélanger tout ça et continuer. Donc jazz ouais. Techno, jazz soul, jazz Motown, jazz est depuis que les années 20, depuis que ça a été créé, c'est une musique qui peut tout réemballer, en fait. C'est assez rigolo.
Peut-être dans une autre vie.
Oui, oui, bon, on a le temps. Voilà. Moi, je le dis, j'ai pas le temps de boire du vin blanc, donc je bois que du vin rouge, parce qu'il y a déjà tellement de vin rouge sur Terre. J'ai pas le temps. On n'a qu'une seule vie.
Ben voilà.
Il faut choisir. Tu n'as qu'une seule vie, une autre
j'ai
vie, ce sera
pour le jazz.
Pour le jazz.
J'ai pas le temps pour le jazz dans cette vie.
Alors, je continue sur le thème les mots, parce que donc sur Spotify, je me dis tiens les mots, c'est vrai que comme là je voulais vous faire écouter les mots démodés, donc c'est le titre de Carimouche. Il y a les mots d'amour, je crois que c'est d'Edith Piaf, les mots d'amour.
Oui.
Les mots par Nougaro là. Et puis je me dis tiens, je vais faire une petite recherche sur les mots. Donc je fais ma petite recherche sur les mots et je trouve.
Qu'est-ce que
c'est ? Ceci. Alors, on vous passe ça. Alors, attendez.
Je reconnais pas.
Non. Approchez, mesdames et messieurs, car aujourd'hui, grande vente aux enchères. Dans quelques instants, mes deux jeunes apprentis saltimbanques vont vous présentationner des mots. Un mot pour tous, tous pour un mot. Un mot pour tous, tous pour un mot. Des gros mots pour les grossistes.
Voilà, ça c'est
les négresses vertes.
Non, la rue Quétanou.
La rue Quétanou. J'hésitais entre
et
les
Quétanou
deux.
Quétanou avec un K, hein, donc pour ceux qui nous écoutent, la rue Quétanou en trois mots.
La rue Quétanou qui est un bon descendant des négresses
voilà.
vertes, je trouve.
Mais j'ai trouvé ça super. Tu peux remettre un peu fort
ouais.
si tu veux.
Des mobilettes pour les voleurs. Aujourd'hui, grande vente aux enchères. On achète des motos.
Donc, ça, c'est du phrasé, c'est du décortiqué, hein, et ça reste un peu jazzeux. Pour ça, quand tu dis que t'aimes pas le jazz, mais il y a beaucoup de guinguettes, la guinguette française.
La guinguette, c'est pas du jazz.
Et Django Reinhardt, si, un petit peu, parce que tout ce qui, en fait, la guinguette, la valse musette, c'est entre la valse, c'est ce que, Gainsbourg disait la javanaise. La javanaise, c'est la java. Et le jazz mélangé, c'est là d'où vient la chanson, c'est-à-dire qu'on mélange l'accordéon, on mélange la guitare et on met un tango, un jazz et de la valse musette dessus, quoi. Et ça fait la javanaise, quoi. C'est typiquement français, mais c'est du jazz. Et c'est pour ça que on dit tous, ah oui, le jazz, c'est américain, la Nouvelle-Orléans, machin, mais il faut pas oublier que la Nouvelle-Orléans, pourquoi ça marche tellement bien aussi? Parce que l'héritage
francophone.
C'est l'héritage francophone, les bayous, les noirs africains d'Afrique francophone qui sont là-bas, qui parlent le français ou les patois de la Nouvelle-Orléans. Et c'est aussi beaucoup de jazz, Louis Armstrong, Duke Ellington, ils font l'école en France. Ils viennent à Paris dans les années 20, dans les années 30, dans les années 40, dans les années 50. Ils viennent tout le temps. Le festival de jazz de Montreux, oui, je sais, c'est pas la France, c'est la Suisse, mais c'est la Suisse francophone. Et c'est des Américains qui viennent faire de la musique en France, et souvent c'est beaucoup de Django Reinhardt, c'est les années 30. Oui, c'est un gitan, mais c'est le jazz gitan. Django, c'est sa guitare et ses accordéons. Et après, tout le monde reprend Django. Django va aux États-Unis, etc. Il y a des croisements énormément de croisements entre la France, les États-Unis, les jazz français et les jazz américains. Il y a une tradition énorme. Enfin bon. Une autre, celle-là, ça va être facile à dire. Ça s'appelle aussi les mots. On écoute ça.
C'est pas donné aux animaux, pas non plus au premier blaireau. Mais quand ça vous colle à la peau,
on dirait du Renaud.
Eh ben c'est Renaud.
C'est Renaud, je reconnais pas sa voix.
Il a écrit une chanson qui s'appelle Les mots.
Les mots sur la feuille et son blanc manteau. Ça vous rend libre comme
c'est un album assez récent d'après ce que j'ai vu. Mais je vais pas l'ouvrir sinon ça va m'enlever ma page.
De tous les mots. C'est un don du ciel, une grâce qui rend la vie moins dégueulasse, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses.
Voilà. Mais c'est un enregistrement qu'il a fait assez âgé, là, parce que je reconnais.
Oui,
pas
oui,
c'est
il y a pas très, très longtemps, mais il y a moins de 10 ans, mais plus de 5. Je crois que j'avais vu, j'ai peut-être dit une bêtise, c'était 2007 ou 2011 ou quelque chose comme ça. D'accord. Je me rappelle plus. J'ai regardé ça vite fait parce que je voulais passer à d'autres, parce que le prochain, je vous le passe tout de suite. Okay. Le prochain, prochaine chanson. J'étais un peu fan quand elle est sortie dans les années 80, mais là, j'aime pas du tout. Mais je me suis dit...
Bah, c'est pas mon truc, là.
Mais tu t'as deviné? Vous avez deviné
non.
Qui c'est?
Non.
Oh, toi, t'es trop jeune, Max.
Je sais pas, je vais dire Céline Dion.
Non. Ah non, non, Céline Dion, c'est plus gros que ça, quand même.
J'ai oublié son nom.
Mylène
Farmer.
C'est vrai,
Mylène Farmer?
Je crois que j'ai jamais écouté un album entier.
C'est en duo avec Syl. Ah, c'est Syl qui chante.
Syl, le chanteur britannique?
Oui.
C'est un peu sirupeux.
Hein. Ah ouais, c'est moche comme tout. Enfin bon, on va passer. Alors, la prochaine,
sirupeux,
ça s'appelle Encore les mots. C'est une chanson qui s'appelle Les mots, donc beaucoup d'artistes. Hein. Donc des chansons qui n'ont rien à voir, à part le titre.
Avec de simples mots, on a le pouvoir de tout détruire. Et avec les mêmes mots, on a le pouvoir de tout écrire. Les mots prônent la haine et ils chantent l'amour. Les mots n'ont peur de rien.
Ah, c'est pas ce. Non, non, ce groupe de rap breton.
C'est grâce à l'écriture que je surmonte mes épreuves mot par mot. Je suis en train de bâtir mon œuvre. Des mots, ce pouvoir.
Bon, allez, je donne ma langue au chat.
C'est un. À mon avis, c'est deux. Des gens différents. Il y a Samian, S-A-M-I-A-N, j'ai jamais entendu parler, et il y a Anneau d'Agé.
Ah ben non, alors je connais pas.
Voilà. Samian et Anneau d'Agé. Je connais pas du tout.
Bon, prochaine.
Bon, la prochaine. Alors attention, les mots.
C'était quoi le nom de la chanson là?
Bah les mots, c'est
les
toujours
mots,
les mots.
Toujours
pour
les
l'instant,
mots.
Je vous juge.
Que les mots.
Que les mots. C'est pour ça que je trouvais ça un peu rigolo. Parce que, je veux dire, ça va être des reprises. Mais c'est même pas des reprises.
Ah ben là, on est en 1982.
Ou 87, ouais, pas loin quoi. Ouais. Ou.
Ah ou pas, non?
Ou la zouk.
Ouais.
C'est Kin 5, ou Kin V. Donc c'est Kin K2ENV. 5, je sais pas.
Et c'est de quand ça?
Je sais pas, j'ai pas le temps, j'ai pas tout regardé parce que
j'avais entendu.
Ça, c'est rigolo.
Donc ça s'appelle Les mots.
Les mots. Donc c'est fou que ça, hein, c'est ça?
Mais je sais pas.
Mais c'est rigolo qu'un titre comme ça me donne tellement de chansons différentes, quoi. En style, en.
Bon, vas-y, prochaine.
La prochaine. Ça va plaire à Yvan. Yvan, si tu nous écoutes, bonjour.
Sec.
Quelque chose, un peu plus.
On va se le repasser un peu plus fort dans deux secondes, mais c'est Mickey 3D.
Ah bah oui.
Mickey 3D.
Pas mal, hein. Encore du rock, donc là c'est vraiment du rock, hein. On peut pas réaliser autre chose. Hein.
Mais ouais, non, pas mal. Hein,
donc
pas
on
mal.
A eu de la zouk, on a eu du rock, on a eu du jazz, on a eu
de la
guinguette, on a eu de. Bon. Et ça, c'est juste avec le titre Les mots, hein, M-O-T-S. Hein. Si je fais Les mots M-A-U-X, il y a encore une dizaine de chansons.
T'en as d'autres là?
Ah, mais attendez.
On continue le quiz.
Il y a. J'ai trouvé Demis Rousseau, ça fait une chanson qui s'appelle Les mots qui font peur. Mais je vais pas passer. Ça m'a fait peur. Si vous vous rappelez d'une chanson qui s'appelle Les mots avec une couleur.
des mots bleus.
Oui, c'est Christophe.
Oui.
Je ne vais pas vous passer
non,
ça non plus.
Non, non,
je suis
c'est
pas
si
très
on
fan.
Veut, là, ouais,
je
ne
suis
non.
pas très fan.
Non, merci.
Allez, l'une, quand même, les plus beaux, l'une des plus belles chansons du monde de tous les temps. C'est triste, hein.
C'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer des fois je voudrais crier. Car je n'ai jamais aimé comme ça, ça je peux te le jurer. Si jamais tu partais, partais, me quittais pour toujours. C'est sûr que j'en mourrais d'amour, mon amour, mon amour. C'est fou ce qu'il me disait comme joli mot d'amour et comme il les disait. Mais il ne s'est pas tué car malgré son amour, c'est lui qui m'a quitté. Sans dire un mot,
pourtant des mots. Piaf, les mots d'amour.
C'est éternel, hein.
Ah oui, ça. Puis le phrasé est super clair. C'est son dernier album, hein, 1960, hein, ça. Hein. Pas écrit du tout par elle, c'est Jacques Dumont, je crois, qui a écrit ça. Jacques Dumont, c'est l'un des frères machin qui chantait aussi. Les frères Jacques, les frères. Comment c'est l'année, les trois. Enfin, c'est pas grave, bon, je vais dire des bêtises après. Donc, je vous ai dit, il y a les mots bleus. Donc, si on continue après, il y a plein de mots, d'autres titres. Il y a une jeune femme qui s'appelle. Comment elle s'appelle. Il y a d'autres, donc, il y a plein de choses. Il y en a un autre, je vais vous le passer, mais je ne sais pas ce que je me rappelle.
Il n'a pas fait une chanson qui s'appelle Les mots.
Peut-être. Il y a derrière les mots, c'est Alain Souchon. Je peux vous passer ça. C'est Alain Souchon et vous le dites.
Là, derrière nos voix.
C'est sirupeux et tisant. Les années 80.
C'est Souchon et Laurent Voulzy, hein.
Ouais, ils faisaient beaucoup de duos dans les années 80, tous les deux.
Ouais, presque tous les albums de Souchon, c'est coécrit par. S'il chante pas, il écrit soit la musique, soit la guitare, soit. Et pareil, Voulzy, presque toutes les chansons de Voulzy, il y a Souchon à la guitare, ou en chante, ou en coécriture. Ils ont beaucoup, beaucoup coécrit tous les deux.
Continue le quiz. Voilà. Qu'est-ce que t'as d'autre?
Sinon, boxe avec les mots, vous connaissez Arsenic?
Mais non, nous dis pas qui c'est avant.
Ah, pardon, mais non, je connais pas du
c'est
tout.
C'est pas un quiz.
Il y a marqué explicite sur le machin, donc j'ai pas envie de dire des bêtises. Ouais, Arsenic.
T'es sûr que c'est explicite, ça?
Bah, ils disent.
Fait un peu musique de chambre. Je boxe avec les mots. Ah oui, d'accord.
Dans sur l'air de la lame, le chant des fusils, des rémalsains, c'est une époque à damner à 5, comme un usine, crache la mort, j'abuse,
arrache, voilà, il nous reste que il nous reste 3 minutes, mais quand même. Donc voilà, merci.
T'en as pas une autre?
Ah, j'en ai du plein.
Vas-y,
La Fouine, vous connaissez La Fouine?
Mais non, mais nous dis pas qui c'est.
Mais je n'ai pas dit le titre, le mot mot dedans.
C'était quelque chose, La Fouine.
C'était quelque chose, ça allait. Un max.
Donne-en juste.
Depuis que je traîne en bas, le soir chez moi, j'entends maman pleurer. Dans le trouar, on veut pas de moi, je vois les profs.
Ouais, non, mais c'est pas très bon, ça. Hein.
Ah, non, c'est pas bon du tout, mais il y en a pour tous les goûts quand même. J'avais pas les mots, ça s'appelle. Ouais, moi j'ai plus les mots.
Non, là aussi, j'ai pas de mots là.
Alors j'ai Marc Dupré aussi.
Je connais pas Dupré.
Quelques mots pour te dire.
Ah ouais, non, mais non.
Combien tu.
Coupé.
Donc ça s'appelle Quelques mots, c'est de Marc Dupré. Enfin voilà.
Ça a inspiré beaucoup de chanteurs,
écouter,
mais.
Là, pour finir, il ne reste qu'une minute, laquelle on va vous les réécouter en entier.
Mais j'aimais bien la guinguette, la requête à nous.
La requête à nous. Allez, on se passe la requête à nous, c'est sympa aussi, j'avoue que.
Ah ben non, encore Dupré qui chante là.
Ben je la retrouve plus tout d'un coup. La requête à nous, les mots. C'est parti, bonne soirée tout le monde.
Bonsoir.
C'était David à l'appareil, Anso à la technique et en backstage, monsieur Max. On n'a pas eu le temps de parler de toi.
Merci David.
Pour la prochaine fois.
Mais des jeunes apprentis saltent avant que vous présentationnez des mots. Un mot pour tous, tous pour un mot. Un mot pour tous, tous pour un mot. Des gros mots pour les grossistes. Des mots de tête pour les charlatans. Des jeux de mots pour les artistes. Des mots d'amour pour les amants. Des mots d'amour pour les copieurs. Des mots pour mots pour les cafeteurs. Des mots savants pour les emmerdeurs. Des mobilettes pour les voleurs. Aujourd'hui, grande vente aux enchères. On achète des mots d'occasion. Des mots à la page et pas cher. Et puis des mots de collection. Un mot pour tous, tous pour un mot. Un mot pour tous, tous pour un mot. Des mots rues.